Et une de ces raisons, c'était pour permettre d'abord à la science de prendre connaissance de ses pouvoirs d'analyse et d'aller au bout de ses analyses et de vérifier avec ses méthodes un phénomène qui n'est pas explicable en dehors du fait qu'on est obligé éventuellement d'admettre qu'il n'y a pas eu de tâtonnage avec ça. Pour créer dans l'esprit scientifique, comme pour créer dans l'esprit spirituel des masses, une conscience que possiblement la vie est une condition d'énergie qui n'a rien à faire avec le biologisme ni la mort. Que la vie est transcendante, je n'aime pas le mot transcendant, mais que la vie est une expression de l'intelligence en dehors des lois de la mort et en dehors des lois du biologisme matériel. Et pour le scientifique, c'est important, dans un sens, d'approcher le phénomène du suaire et d'arriver à certaines conclusions qui, intérieurement, parce que le scientiste, c'est un homme qui peut vivre des expériences comme ça à deux niveaux. Il y a une partie de lui intérieure qui est spirituelle, qui est chrétienne ou quoi que ce soit, ou qui est spirituelle, en général. Et il y a une partie de lui qui est totalement cartésienne. Et l'expérience pour un scientiste qui est dédié à l'application de la méthode scientifique, mais aussi qui est un homme qui a des sentiments internes et qui a une philosophie interne, ça permet un rapprochement de la méthode scientifique pragmatique cartésienne avec son sentiment d'homme. Et ceci permet aux scientistes de peut-être reconnaître, selon le pouvoir de sa méthode sur son esprit, de peut-être reconnaître qu'il y a effectivement là quelque chose qui n'est pas explicable et qui est à la fois explicable, si on tombe au niveau de l'explication de la radiation, mais qui n'est pas explicable en termes de phénomène normal chez l'homme. Et c'est la fonction du suaire de Turin. Alors, c'est un événement pour l'humanité qui est heureux, non pas parce que c'est un événement spirituel. Il peut être heureux en tant qu'événement spirituel pour des millions de personnes. Et ça, c'est très bon aussi. Mais c'est un événement qui est heureux sur le plan cosmique, sur le plan planétaire, parce que il découle la vision froide de la science qui essaie d'observer un phénomène qu'elle ne peut pas reléguer, remettre aux archives. Elle est obligée de le contempler, le phénomène. Elle est obligée de se demander des questions précises et de tirer des conclusions qui sont diplomatiques, qui sont justes, mais qui laissent à l'esprit scientifique mondial la chance, l'ouverture, la porte, que peut-être le suaire, c'est un phénomène réel qui s'est produit et qui n'a jamais été le résultat d'une activité charlatanesque. Et je trouve que l'Église a été extrêmement diplomatique, délicate, intelligente dans la façon dont elle a présenté à la communauté scientifique ce suaire. Alors déjà l'Église, dans son fond intérieur, elle est satisfaite. La communauté scientifique est extrêmement intéressée et l'humanité est aussi rapprochée un peu du fait que peut-être, dans le passé, pour nous autres, c'est difficile aujourd'hui d'assumer que telle chose s'est produite comme ça, telle chose s'est produite comme ça, parce qu'on est rendu qu'on a l'esprit critique, et ça, c'est très bon. Mais au moins, ça donne une chance à l'humanité, à des millions d'hommes, de réaliser que peut-être, effectivement, il y a eu dans le passé un initié qui a réussi à dépasser les lois du biologisme, autrement dit de l'existence, et aussi à dépasser les lois de la mort. Alors ça nous rapporte à la fin du 20e siècle. Ça nous ramène dans un temps où déjà des gens dans le monde commencent à expliquer la différence entre le biologisme purement matérielle, la mort, qui est purement l'extension du biologisme dans une autre dimension par suite de son arrêt, et la vie, qui est une condition totalement neuve, totalement non explorée par l'humanité, et totalement inconnue de la plupart des hommes qui vivent sur ce globe terrestre. Lorsqu'en fait, il y a des hommes dans d'autres parties de la galaxie qui la connaissent.
Une chose que je me rappelle, c'est qu'après la résurrection du Christ, il a rencontré une des saintes femmes, je pense, c'est Marie-Madeleine, et elle l'a vu, elle est allée rencontrer les apôtres en disant « Je l'ai vu, mais je ne lui ai pas touché parce qu'il m'a dit qu'il ne fallait pas que je le touche. » Et ça, ça me rappelle les témoignages d'êtres qui se manifestent à des hommes et qui leur disent « Approche-moi pas, touche-moi pas. » Donc, cette vie qui survit à la vie biologique humaine...
Les êtres qui sont dans la vie ne veulent pas être touchés parce que leur corps est un corps éthérique. Il a la forme parfaite du corps physique, mais c'est un corps qui, si tu passes ta main à travers, il est totalement vide. C'est pas un corps solide, c'est un corps éthérique. C'est un corps de vie. C'est ça la vie. Alors, en restant, en demeurant un peu à distance des êtres, ça permet à ces êtres-là d'être convaincus de la vie sans en comprendre tous les aspects que l'homme devait connaître au fur et à mesure que l'évolution se fait. Alors, la vie, c'est pour ça que je dis, la vie, ce n'est pas biologique, ce n'est pas nécessairement solide, et c'est une condition qui dépasse les lois de la mort, comme les lois du biologisme. Mais on est tellement attaché au biologisme qu'on a de la difficulté à comprendre que la vie ne peut être vécue que lorsque l'homme a fait connexion, éventuellement, avec l'éther mental. Et l'éther, des mondes de l'intelligence, où la vie est.
Est-ce que l'Église a fait une erreur lorsqu'en voyant le Christ souffrir et mourir pour nous, et finalement arriver à la résurrection des corps, nous fait croire qu'il faut absolument souffrir pour évoluer?
Écoutez, on peut pas en demander trop à l'Église. L'Église, c'est un corps d'hommes qui viennent des plans de la mort et qui viennent dans le plan de la vie pour une expérience et qui retournent au plan de la mort, et ainsi de suite. Alors, l'Église, les hommes de l'Église sont soumis aux mêmes lois planétaires que les hommes dans la rue. On ne peut pas demander aux hommes de l'Église d'être plus dans l'intelligence qu'ils le sont. Alors, les hommes de l'Église, ce n'est pas parce que ce sont des hommes de l'Église qu'ils sont dans le secret des dieux. Ce n'est pas parce que ce sont des hommes de l'Église qu'ils sont dans l'intelligence. Ce sont des hommes qui, expérientiellement, ont une vibration qui leur permet de faire un travail comme celui-ci au lieu de travailler chez General Motors. Alors, on ne peut pas demander à l'Église trop. L'Église fait ce qu'elle peut et elle fait en plus ce qu'elle doit sans le savoir. L'Église fait ce qu'elle peut en relation avec l'expérience humaine, en relation avec l'inconscience de l'homme, mais elle fait ce qu'elle doit parce que le plan de l'Église fait partie du plan de vie de la planète Terre. Et un jour, l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus parce que ce qu'elle a fait dans le passé qui coïncidait avec l'évolution et qui servait énormément à la création en Europe, éventuellement en Amérique, ainsi de suite, mais en Europe au début, de forces qui devaient créer le ciment pour lier ensemble différentes nations, pour créer le continentalisme européen, c'était essentiel. L'évolution de la civilisation terrestre. Mais il vient un jour où, lorsque l'homme entrera dans l'éther mental, l'Église perdra sa puissance, et l'Église aujourd'hui perd sa puissance, et c'est normal, et ça fait partie de l'évolution, et ça fait partie de la fin du cycle, et ce n'est pas parce que l'Église perd sa puissance que l'Église n'est pas bonne. L'Église sera bonne jusqu'à la fin des temps, autrement dit jusqu'à la fin du cycle, parce qu'elle aura servi. Mais l'homme doit être suffisamment intelligent éventuellement pour comprendre que ce qui a été bon dans le passé n'est plus assez dans l'avenir. L'homme s'en va vers l'intelligence universelle, l'homme s'en va vers un stage de compréhension qui est tellement différent du stage ancien que toutes les conditions de la civilisation que nous connaissons seront dépassées par le fait même que les hommes seront dans cette nouvelle mutation. On ne peut pas demander à l'Église de fermer ses portes, comme tu ne peux pas demander à l'Église d'être plus puissant différente qu'elle l'était avant, les conditions changent. Et l'homme, l'individu, d'ailleurs, c'est l'individu qui ferme petit à petit les portes de l'Église. Un individu sortir, ensuite un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite... Ça se fait individuellement, ça. C'est pas quelqu'un qui est arrivé dans le monde ou quelqu'un qui a créé un mouvement dans le monde qui a dit « Ah, c'est assez, les gars, là, on sort. » C'est pas de même que ça s'est fait. Ça s'est fait individuellement. Peut-être qu'un jour, le curé était écœuré parce qu'il est sorti, puis un autre, c'est une autre affaire, puis un autre, c'est une autre affaire. Fait que c'est tout en relation avec l'expérience subliminale de chaque individu, et à la fin du cycle, l'Église aura fait le mieux, elle aura fait ce qu'elle devait faire, et elle aura servi de canal pour maintenir dans le monde occidental des vibrations astrales spirituelles qui sont différentes des vibrations astrales spirituelles que l'on trouve dans l'Orient, et qui sont différentes des vibrations spirituelles astrales que l'on trouve dans le monde mahomédan, ainsi de suite, dans les autres religions, afin de permettre que les peuples soient divisés en régions monolithiques pour créer dans le monde une balance vibratoire entre les différentes nations et aussi entre le caractère des peuples. Tu peux pas demander à un Japonais d'être catholique comme un catholique de Shawinigan peut l'être. Tu peux pas demander à un type au Tibet d'être catholique comme un gars de l'Amérique du Sud. Alors la religion, les religions, leurs facettes, leurs caractéristiques, leur nature conviennent aux peuples, aux nations, aux régions, et c'est de même que ça marche.
Si on demande à Bernard, est-ce qu'il faut souffrir pour évoluer?
Ça, c'est une question intéressante. Je l'aime, celle-là, puis les gens ne l'aiment jamais, celle-là. Les gens n'aiment jamais mes réponses, celle-là. Il y a deux sortes de souffrances sur la Terre. L'homme souffre inconsciemment. Ce qu'on appelle les souffrances qu'on connaît quand on est inconscient. Ça, c'est des souffrances. Ce sont des souffrances expérientielles, puis on les souffre, ces souffrances-là, puis ça sert à l'âme. Ça sert pas à l'individu, ça sert à l'âme. Bon. Quand l'homme commence à rentrer dans l'état mental, puis commence à vivre la fusion avec l'état mental, à ce moment-là, il vit une autre souffrance, qui ne sert pas l'âme, mais qui sert à raccorder ses principes avec l'éther mental. Et cette souffrance consciente-là, elle est pénible, elle est grande, mais la différence avec l'autre, c'est que quand tu commences à la souffrir, cette souffrance-là, tu sais pourquoi est-ce que tu souffres. Tu réalises qu'elle est nécessaire et tu vois qu'au fur et à mesure que tu souffres, que toi-même tu avances. Tandis que dans la souffrance inconsciente de l'individu par rapport à les mémoires de l'âme, il peut souffrir toute sa vie, puis il va crever à 80 ans, puis il va recommencer comme un yo-yo encore. Tandis que dans la souffrance consciente, l'homme va jusqu'à la fin de sa souffrance. Quand il est arrivé à la fin de sa souffrance, son niveau de conscience est supérieur, sa fusion est plus avancée, et automatiquement, il ne vit plus la vie comme il vivait avant, et sa souffrance a servi, puis à un certain moment, il ne souffre plus. De sorte qu'à un certain moment, l'homme ne peut plus souffrir parce qu'il connaît et il comprend les conditions de l'intelligence et son rapport à cette intelligence avec sa vie matérielle. Puis éventuellement, mais quand tu changes de plan, mais là, naturellement, il n'y a plus de souffrance parce qu'il vit dans des conditions de perfection, c'est-à-dire qu'il vit dans des conditions où l'intelligence règne tout partout dans tous les domaines de la vie. Est-ce que l'Église a raison quand elle dit qu'il faut souffrir? Elle a raison partiellement dans le sens que la vie indique que la souffrance sert à l'évolution de l'âme. Et elle a raison que la souffrance sert à l'évolution de l'âme. Mais c'est la souffrance de l'individu qui sert à l'évolution de l'âme. Ce que l'Église ne comprend pas, puis ce que l'Église ne comprendra pas anyway, excepté ceux qui la comprennent, puis ceux qui sont dans l'Église et qui vont comprendre à ce niveau-là, ils vont trouver sortir anyway. Fait que tu ne peux pas rester dans l'Église et comprendre quelque chose. Si tu restes dans l'Église, il faut que tu comprennes juste ce que tu as à comprendre. À ce moment-là, tu es safe. Puis là, tu peux faire du bien. Mais si tu comprends tout, tu es obligé de sortir. Tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas vivre deux vies à la fois. Tu ne peux pas servir l'intelligence supramentale puis l'intellect philosophique de là. Alors, tu ne peux pas servir la tradition puis servir l'avenir. Alors, si dans l'Église, tu en comprends trop, tu en sais trop, tu vas muter, puis si tu mutes, automatiquement, tu vas sortir de l'Église. Parce que ce que l'Église comprend, elle le comprend intuitivement, elle le comprend par rapport aux paraboles, elle le comprend par rapport à l'expérience de l'Église, elle le comprend par rapport à la relation entre la souffrance et l'évolution de l'homme qui, pour l'Église, c'est le salut de l'homme. Mais le salut de l'homme qui est vu par l'Église, c'est pas le salut de l'homme. Le retour au monde de la mort pour sauver ton âme, c'est pas le salut de l'homme. C'est le retour de l'homme sur la terre. C'est ça que l'Église ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas ça, l'Église? Parce que l'Église a perdu contact avec l'ésotérisme chrétien. Il n'y en a plus d'ésotérisme chrétien dans l'Église. Si l'Église, aujourd'hui, ouvrait ses portes à l'ésotérisme chrétien, l'exotérisme théologique de l'Église tomberait complètement en panne et les masses seraient attirées par l'ésotérisme chrétien de l'Église. Et ce que l'Église dit ou qu'elle a dit dans le passé serait totalement remarché, revu, ressenti, recompris par la vision nouvelle de l'homme à travers l'ésotérisme chrétien. Alors, l'Église aujourd'hui vit l'exotérisme chrétien. L'exotérisme chrétien a une vitalité de 2000 ans. Là, il commence à tirer à sa fin, l'exotérisme chrétien. L'ésotérisme chrétien de l'Église est trop avancé pour l'Église. Non pas parce qu'il n'y a pas de gens dans l'Église qui ne le comprennent pas, l'ésotérisme chrétien. Mais ceux qui sont dans l'Église et qui connaissent et qui le comprennent, l'ésotérisme chrétien, sont obligés de rester dans leur cellule. S'ils sortent de leur cellule, là, à ce moment-là, ils vont être pris d'un avalanche. Fait qu'ils sont obligés de rester dans leur cellule, de faire leur méditation tout seul. L'ésotérisme chrétien qui a été exposé à l'homme par des gens comme Rudolf Steiner, par exemple, cet ésotérisme chrétien-là ne peut pas rentrer dans l'Église parce que c'est une pensée qui est fondamentalement opposée au conditionnement spirituel de l'humanité. C'est une pensée qui enlève à l'homme la responsabilité de son karma pour lui donner la vision de son avenir. Fait que c'est évident que l'Église qui base toute sa psychologie et toute sa confessionnalité sur l'exigence de l'homme de porter ses propres cendres sur ses épaules jusqu'aux portes de Thèbes, c'est évident que l'Église ne peut pas renier les fondements qui ont été établis depuis 2000 ans. Les lois d'impression sont trop fortes. Fait que l'Église est obligée de continuer à jouer sa partie de carte comme elle a toujours joué, avec l'espérance spirituelle, qu'elle va gagner la partie de poker. Mais il se produit quelque chose dans l'Église aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il transpire dans le monde des prophéties, les prophéties de Malachie, les prophéties de Nostradamus, ainsi de suite. Fait que quand un gars, d'ailleurs, qui a fait partie de l'Église, puis qui a commencé à parler de l'avenir des siècles, et qui commence à dire que le pape il va crever telle année, l'autre pape il va se faire tirer une balle, l'autre pape va être ouvert avec une guidonne, l'autre pape il va arriver tout ça d'affaires, puis d'un coup, hop, tu regardes les nouvelles, ça se produit, là, les gens commencent à se dire qu'est-ce qui se passe, puis là, l'Église n'est pas folle, l'Église a check ça, regardons ça, c'est intéressant. Fait que là, quand les types dans l'Église commencent à regarder ça, là, ils prennent le stand, puis ils la mettent par sa tête, puis ils s'en vont dans ses lieux, puis là, ils checkent ça, puis ils lisent ça tout seul, puis là, ils trouvent ça intéressant, puis là, ils s'ésotérisent. Puis quand ils s'ésotérisent trop, là, c'est parce que c'est la fin d'un cycle. Alors, il y a une mutation dans l'Église, c'est une transformation, c'est un élargissement de l'Église. L'Église, c'est une organisation d'être extrêmement particulier. L'Église, c'est une formation d'intelligence et de sentiments spirituels extrêmement puissants. L'Église, c'est une belle force sur la planète Terre. Mais l'Église, c'est pas la fin du monde, c'est comment ça?
Monseigneur Frank Schaffner, qui est ici justement ce soir, aime beaucoup faire
bon,
des jeux de
on va parler de Monseigneur Frank Schaffner. Moi, je ne connais pas Monseigneur Frank Schaffner, mais on va parler de lui pareil. Monseigneur Frank Schaffner, c'est Monseigneur. Alors, c'est un type qui est à l'intérieur de la forme de l'Église et qui a réussi à ésotériser sa pensée ecclésiastique, de sorte qu'en tant qu'individu dans un public, il est capable de transposer pour le peuple des aspects de la pensée ecclésiastique formalisée de l'Église et de lui donner une vie, un souffle. Et en faisant ceci, il fait pour la masse, pour le peuple, un effort de conscience extraordinaire parce que ce sont des hommes comme ça qui vont éventuellement permettre à ce que d'autres hommes dans le monde puissent concevoir. Tu sais, quand tu es un boulanger. T'es un taxi driver. Mais quand tu es un monseigneur, puis tu es un médecin, puis tu es un scientiste, c'est un archevêque, peut-être que, il y a quelque chose, là. Alors, la personnalité, parce que c'est pas une flouque qu'on l'appelle Monseigneur Schaffner, pardon. C'est pas une flouque. Le fait d'abord qu'on l'appelle Monseigneur Schaffner, que ce soit un Monseigneur Schaffner, déjà l'impression est bonne. Parce que la forme permet aux gens de réaliser que c'est pas n'importe quel gars, c'est pas n'importe quel niaiseux. Fait que s'il y a quelque chose à dire, cet homme-là, ce qu'il dit doit certainement avoir une connotation avec un aspect du réel en lui qu'il convient de comprendre selon sa propre intelligence. Moi, si j'étais avec Mgr Schaffner chez nous, ben, on pourra parler, puis développer. Mais moi, je ne le connais pas, Mgr Schaffner, je le connais dans ma tête, de même, je parle de lui-même. Mais je sais et je suis obligé de dire que des hommes tels que lui sont des hommes qui ne sont pas sur le plan matériel pour rien, il y a des raisons, et ça convient dans notre temps, surtout dans la province de Québec, que des types tels que lui puissent venir dans un public et ésotériser ce qui a été exotérique trop longtemps pour permettre une fois pour toutes que du monde, des boulangers, des taxi drivers, des professeurs d'école, des avocats, puissent comprendre que peut-être il y a quelque chose d'extraordinaire dans une pensée qui, par le passé, était cachée et était voilée dans les temples. Parce que c'est le temps aujourd'hui que ça sort. Fait que mon Seigneur Chapelain, je ne le connais pas, mais je sais par vibration que c'est un type qui a un travail à faire dans le monde et qui le fait bien, je cite en tout cas, il n'a pas fait de gaffe. Et que ce travail-là, il est essentiel, et tant que cet homme-là sera dans la conscience de son intelligence et qu'il prendra conscience de l'importance de l'intelligence dans sa vision des choses et qu'il ne laissera pas son ego faire interférence avec sa présence à ce moment-là, cet homme-là ne peut pas ne pas faire du bien, ne peut pas ne pas apporter à l'homme quelque chose et ne peut pas travailler dans le même sens que je travaille. C'est impossible.
Il y a juste une petite nuance avec le travail de Bernard, c'est que Mgr Franck Schaffner nous dit qu'il fait partie d'une école ésotérique dont les chefs sont des guides de lumière, des êtres de lumière, dont l'un des grands représentants est venu du Canada avec une étiquette du Canada sur lui. C'est pas dans le sens de Bernard qui nous dit ça passe pas par des écoles, maintenant ça va venir direct dans la tête de chacun. L'intelligence passe directement. Il n'y a pas un piège dans lequel lui ou d'autres peuvent tomber en étant dans une école.
Il faut comprendre le mot école. D'abord, le mot école, dans l'univers, il y a des écoles. Sur les autres plans, il y a des écoles. Là où les écoles cessent d'exister, c'est dans le monde de l'intelligence. Dans les mondes de l'intelligence, il n'y a pas d'école. Mais dans les mondes de l'évolution, il y a des écoles, et dans ces écoles-là, il y a des êtres qui sont très évolués et qui servent à représenter pour l'homme, à travers son écran mental ou à travers son expérience astrale, des aspects d'un réel que lui doit vivre selon sa relation vibratoire avec ces êtres-là. Alors, ce sont des écoles. Il y a des écoles visibles, il y a des écoles invisibles. Ce que je dis, c'est que quand l'homme sera dans son écran mental, l'homme ne sera plus n'appartiendra plus à des écoles, mais il créera des écoles nouvelles pour les hommes qui viennent après. Il y aura toujours des écoles. Il y aura des écoles sur la Terre tant que l'homme ne sera pas arrivé au stage de l'homme-esprit. À ce moment-là, il n'y aura plus d'école parce que l'homme sera dans le mental. Alors, il n'y a pas d'école. Mais tant que l'homme servira sur une planète, que ce soit sur la planète Terre ou que ce soit sur d'autres planètes dans la galaxie, tant que l'homme servira à indiquer aux hommes des lois de l'évolution, à ce moment-là, il y aura des écoles, parce que les écoles servent à former dans l'esprit des entités ascendantes de l'échelle de l'évolution des aspects de la perfection qu'ils peuvent voir simplement par le biais de leur spiritualité et de leur force astrale ascendante. Lorsque les hommes seront sortis de cette condition d'évolution-là, que les êtres auront finalement dépassé le stage de l'âme, qu'ils auront détruit la mémoire de l'âme, et qu'ils deviendront des êtres descendants au lieu d'être des êtres ascendants. Il n'y aura plus d'école pour eux autres, mais il y aura des écoles pour ceux qui ascendent. Il y aura toujours des écoles pour ceux qui ascendent, parce que ceux qui ascendent doivent être indiqués le chemin. Et ils sont indiqués le chemin de toutes sortes de façons, et cette école dont Monseigneur Schaffner parle, ça fait partie de ça. Mais un jour, probablement, Monseigneur Schaffner, au lieu d'être en conversion avec des intelligences qui se servent du plan astral pour lui communiquer de l'information, Monseigneur Schaffner sera en communication vibratoire avec l'intelligence supramentale et il n'y aura plus entre lui et les mondes de l'intelligence d'intermédiaire qu'on appelle les guides de lumière. Alors, quand il n'y aurait plus de guides de lumière, à ce moment-là, Mgr Schaffner comprendra que les guides de lumière font partie des forces dans l'astral spirituel et que dans le monde mental, dans les terres mentales, il n'y a pas de guide de lumière. Il y a simplement de la lumière et tous les hommes sont des atomes. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est comme ça que les gens de bonne volonté font des erreurs. Les hommes de bonne volonté font des erreurs parce que on a tendance à chercher. Et en cherchant, puis en essayant de chercher, on a tendance à se servir de tous les outils qui sont à notre disposition. Et le plus puissant, c'est l'association. Et c'est très dangereux, l'association, parce que l'association fait partie des mécanismes de l'intelligence humaine qui sont conditionnés par l'émotion de l'homme pour lui donner la certitude ou un brin de certitude que quelque chose peut possiblement exister afin de renforcer sa foi. L'association, ça mène toujours à la foi. L'homme doit sortir totalement de la foi, c'est-à-dire que l'homme doit rentrer dans l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as plus besoin de foi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, la foi. C'est comme les écoles de Mgr Schaffner et les guides de lumière de Mgr Schaffner. Tous les hommes, il y a bien du monde dans le monde qui ont des guides de lumière. C'est pas que ces guides de lumière-là sont pas réels. Ils sont réels. Ce que je dis, c'est que l'homme, l'individu, éventuellement, doit en arriver à développer son identité. Et lorsqu'il a développé son identité, il n'a plus besoin de guide de lumière parce que leur job est fini. Quand leur job est fini au guide de lumière, l'individu, l'homme, est automatiquement rendu au point où il est capable d'assumer la tâche de son intelligence. Alors, il n'y a plus besoin à ce moment-là de guide de lumière pour le guider. Il est dans la maturité de son mental et il va là où il veut et là où il doit parce que tout ce qu'il fait est en relation vibratoire avec l'intelligence et que cette intelligence, pas plus que l'intelligence et la volonté cosmique. La volonté cosmique, l'intelligence et l'amour sont des principes universels qui font partie de l'autre dimension de l'homme. Ça fait partie du surhomme dans l'homme. Et ça sera compris de l'homme lorsque l'homme, de par sa volonté et son intelligence, aura détruit la mémoire de l'âme et qui aura entré dans l'éther. Et à ce moment-là, il se servira de l'amour, qui est un principe d'énergie, pour construire les formes d'un univers nouveau, d'une nouvelle civilisation. L'amour, ça ne sera jamais vécu sur la planète Terre, c'est pas fait pour la planète Terre, l'amour. Le sentiment de l'amour est fait pour la planète Terre. L'intellect est fait pour la planète Terre. La volonté subjective est faite pour la planète Terre, mais pas volonté cosmique. La volonté cosmique, puis l'intelligence cosmique, puis l'amour cosmique, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle la volonté, l'amour, l'intelligence, nous autres. C'est une dégradation de cette énergie-là qu'on vit, nous autres, au niveau du mental et de l'émotionnel. Quand l'homme sera en fusion avec l'énergie de ces plans-là, là, à ce moment-là, il vivra d'amour cosmique, ce ne sera pas l'amour humain sentimental, il vivra d'intelligence cosmique, ce ne sera pas l'intellect de l'homme, il vivra de volonté cosmique, ce ne sera pas la petite volonté qui est basée sur son corps de désir quand il va dans le rêve, il va. C'est ça que l'homme doit comprendre. Alors, l'amour que le Christ a parlé, c'était pour créer dans l'humanité occidentale une philosophie de vie qui coïncide avec le tempérament des Occidentaux, comme en Orient, une autre philosophie de vie qui coïncide avec le tempérament des Orientaux, et comme dans les pays d'Arabie, c'est une autre mentalité qui coïncide avec un autre peuple. Alors, l'amour, ça a été pour l'Occident, puis en Orient, c'était d'autres choses, puis en Arabie, c'était d'autres choses. Mais le principe cosmique de l'amour et la volonté et l'intelligence cosmique, ça sera connu dans l'intellect. En attendant, buvez du coke, puis attendez.
Puis c'est au Québec qu'on a un gars comme Bernard de Montréal qui parle d'une nouvelle façon de toutes ces choses-là.
Je parle pas d'une nouvelle façon de toutes ces choses-là, c'est parce que ces choses-là n'ont jamais été expliquées à personne. Parce que c'est évident que si ça n'a jamais été expliqué à personne, ça commence à l'être, ça part à nouveau. C'est pas nouveau, c'est du vieux. Parce que tout est su, tout est connu, tout est là.
C'est une nouvelle façon seulement, mais de toutes ces choses-là.
C'est expliqué d'une façon différente, c'est expliqué sans émotion et sans intellect. Fait qu'automatiquement, ça a l'air neuf, puis ça chambranle tout le monde, mais il n'y a rien là. C'est bien normal.
Parlez souvent de la fin du cycle, pour bientôt.
Et puis, non, c'est pas moi qui parle pour bientôt, c'est vous autres, ça, qui mettez du bientôt là-dedans. Non, c'est pas moi, ça. Moi, j'en mets pas de bientôt, puis je mets pas de date. Non.
Alors, si on a parlé de la fin de l'Église...
La fin du cycle.
Bon. Alors, donnons pas de date. Il n'est pas question de vous demander de date, mais ça me fait penser que le Christ qui est ressuscité d'entre les morts avec une énergie de lumière me rappelle l'énergie de lumière des bombes atomiques. Il y a un parallèle qui me paraît assez simpliste, là, mais assez facile à faire.
T'en fais tout ça de parallèle. T'es né, tu fonctionnes en parallèle. Tu peux pas fonctionner en parallèle. Voyons, qu'est-ce que tu fais là?
Les orientaux disent que tout est cyclique. Il y a peut-être une pensée orientale qui voit que les choses ne sont qu'un perpétuel recommencement.
Oui, ils ont raison, les orientaux, quand ils disent que tout est cyclique. Ça, c'est vrai que tout est cyclique. Mais le cycle, la nature du cycle change. Mais tout est cyclique. Et tout va être cyclique tant que l'homme ne sera pas rendu homme-esprit, puis ensuite des cycles aussi limités qu'on a connus, il y en aura plus, il y en aura d'autres plus longs. Mais effectivement, les choses sont cycliques. Raison.
Quand vous nous rappelez que Albert Einstein a découvert une formule qui venait de la science, et la science qui est une science des morts, si on veut, de la mort, finalement va amener l'humanité à la fin du cycle, comme vous nous l'avez dit dans la première cassette tantôt, la première heure. Donc, il me paraît évident qu'il y a un jeu qui se prépare, un jeu dans lequel même Albert Einstein a amené l'homme à réaliser l'explosion atomique. Donc, tout ça se relie encore une fois.
Ça se tient, là. Ça se tient tout. Ça se tient. Tout ça, je dis aux gens, les gens parlent des prophéties, petit peu de toi, que les gens s'énervent des prophéties. Les gens ne devraient pas s'énerver des prophéties parce que ce qui s'agit, ce que l'homme a besoin, c'est d'être conscient. Autrement dit, d'être dans son intelligence. Quand l'homme sera dans son intelligence, il sera guidé par l'intelligence. L'intelligence, ça éclaire. Fait qu'automatiquement, il sera automatiquement protégé, il sera amené où il devra être amené dans le temps. Alors, les prophéties, puis ce qui coïncide avec la fin du cycle, d'abord, les hommes ne sauront jamais comment ça va se produire. Parce qu'en haut, laisse-moi te dire qu'ils sont au bout. Hein. L'homme ne saura jamais comment ça se produit. Parce que les secrets, autrement dit, ce qui doit être voilé à l'homme, doit être voilé à l'homme parce que ça fait partie de son expérience. Ça fait partie de l'expérience de l'involution. L'homme doit passer par ça. L'homme doit le vivre, le karma mondial, puis il va le vivre. Ceux qui ne vivront pas le karma mondial, ceux qui passeront à travers le karma mondial, sont ceux qui seront conscientisés. Ils ne passeront pas à travers le karma mondial parce qu'ils n'auront plus de karma. Alors, automatiquement, ils seront amenés là où ils doivent, et automatiquement, ces gens-là seront amenés dans des conditions de vibration et de vie qui les soutirera à cette condition de mort. Seulement, ça marche. Mais nous autres, les hommes, on doit comprendre que l'intelligence, parce qu'on ne sait pas que c'est, j'en ai pas parlé en cause de l'intelligence. Hein. Faudrait que j'explique ça un jour, que c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas ce qu'on pense. Nous autres, on pense que l'intelligence, c'est de l'intelligence. J'ai déjà dit, l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. L'intellect, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie qui se manifeste. Quand ça se manifeste, ça devient de la connaissance. Puis nous autres, on appelle ça de l'intelligence. C'est simplement de l'énergie de l'intelligence. Alors, un homme qui fonctionne en relation avec l'énergie de l'intelligence, il est automatiquement amené à vivre sur le plan matériel, vital, émotionnel et mental, au taux vibratoire de cette énergie-là. Fait que quand cette énergie-là décide de changer les vibrations de l'homme, il change. Alors, l'homme passe d'un plan biologique de vie à un autre plan de vie. Absolument rien là. En attendant, c'est à nous autres d'essayer petit à petit de comprendre que l'avenir il est là, puis le futur est là, puis que les choses vont se développer comme ils doivent, et que tous les hommes ont en eux de l'intelligence. Tous les hommes ont en eux de l'intelligence. Ce qui bloque l'intelligence dans l'homme, c'est son intellect et son émotion. Enlève l'émotivité subjective et l'intellect subjectif d'un homme, et il est automatiquement dans l'intelligence. Mais quand l'intelligence commence à pénétrer dans un homme, puis l'intellect est là, puis l'émotion est là, le gars, il souffre. C'est évident qu'il souffre parce que ses corps ne sont pas capables de prendre la vibration. C'est pour ça qu'il souffre. La souffrance, c'est un changement vibratoire. Quand les hommes auront suffisamment développé de résistance, une capacité d'absorber cette énergie-là, il n'y aura absolument plus rien à l'intelligence. Il n'y a rien là à l'intelligence. Tout le monde fait une grosse patente de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie, puis ça a toujours été, puis ça va toujours être. Puis ce qui vient en deçà de cette énergie-là, c'est le passage de cette énergie-là sur des plans qui s'en servent pour constituer soit du matériel, ou du vital, ou du biologique, ou n'importe quoi. Et nous autres, on appelle ça de la vie. C'est pas de la vie, c'est de l'existence. Puis après ça, mais si tu comprends rien, mais tu retournes au monde de la mort. Fait que nous autres, on est prisonniers de l'espace jusqu'à temps qu'on se réveille, puis les morts sont prisonniers du temps jusqu'à temps qu'ils descendent ici. C'est même ça marche. Parle à des morts. Il y en a qui parlent avec des morts. Parlez-leur avec des morts. Demandez-leur si c'est vrai ce que je dis. Ils vont vous le dire. Ils ne peuvent pas se soutenir avec moi. Ils ont toujours raison. L'intelligence a toujours raison. C'est pas moi, Bernard Montréal, qui a toujours raison. Moi, j'étais l'enveloppe, j'étais un canal. L'intelligence a toujours raison. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Fait que les erreurs, les gens font l'erreur de penser que c'est moi qui dis que j'ai toujours raison. C'est pas moi qui dis que j'ai toujours raison. Moi, j'existe pas, moi. Fait que le moi, là, quand les gens comprendront ça, bien, ils comprendront qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Puis tous les hommes en ont, là.
Pourquoi que la fin du cycle doit être provoquée par des êtres intelligents?
La fin du cycle n'est pas provoquée par des êtres intelligents. La fin du cycle, elle est sue. Parfaitement. Mais ce sont les conditions de l'involution qui créent la fin du cycle. Le karma, ce qu'on appelle la mémoire de l'évolution, la mémoire expérientielle de l'humanité qui crée la fin du cycle. Parce que, écoute bien ça, tu vois, allez. Nous autres, là, on a tendance à mettre de l'importance sur la vie biologique. Parce qu'on est des hommes. On est dans l'inconscience de la vie, fait qu'automatiquement, on met de l'importance à la vie biologique. Mais dans les mondes d'intelligence, un de plus, un de moins, ça ne change rien pour eux autres. Le seul problème, c'est que quand il y a des guerres, ça fait bien du travail de l'autre bord. Eux autres sont occupés de l'autre bord. Mais que la planète disparaisse à l'unité près, ça ne dérange rien. Parce que ça va continuer l'évolution anyway. Ça va continuer. Dans le passé, c'est la même chose. Il y a eu Noé, là, puis il y en a eu d'autres. Quand il y en avait quelques-uns là, qui pouvaient être un petit peu plus conscients, bien, ils pouvaient charrier tout le reste de la gang. Ils s'en vont dans le monde des morts à nous, ils vont revenir à nous. Ça fait qu'ils ne perdent rien. Le corps matériel, c'est pas grave, parce que le corps matériel, il est construit à partir des autres plans. Le corps matériel, le corps vital, c'est tout construit à partir des autres. On pense d'autres, c'est construit, c'est pas construit, c'est. Essaye donc de mettre la vie d'une tomate, toi, quand il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a rien d'autre bord, il n'y a pas de site. Fait que n'inquiète pas pour les mortels. Il y en aura toujours assez de mortels. Seulement, il vient un temps à la fin d'un cycle où c'est le temps qu'il y a un changement dans l'évolution. C'est le temps où que l'intelligence doit primer sur l'absence d'intelligence. Même s'il est bien éduqué, l'absence d'intelligence, c'est l'absence d'intelligence. Pareil. Comment tu as 4 doctorats, c'est un niaiseux, t'es un niaiseux. Fait que l'intelligence cosmique doit primer sur l'intelligence planétaire. Ça, ça fait un cycle. Ah, les Lémuriens ont passé, les Atlantes ont passé, les races indo-européennes ont passé. Nous autres, on est la fin de ça, la sous-race, la cinquième sous-race. Puis là, il y a une sixième qui s'en vient, puis elle aussi, elle va passer, puis ensuite, il va en avoir une septième, puis elle aussi, elle va passer. Puis ça, c'est les lois cosmiques. Seulement, quand t'es pogné dans ton biologisme, puis tu t'es conscient, puis tu sais ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe, bien, à ce moment-là, tu ne vis plus d'anxiété existentielle. Tu vis dans ton intelligence, dans l'intelligence, tu vis de cette énergie-là, et elle te soutient mentalement, émotivement, vitalement et physiquement. Puis si un jour, ça chauffe trop entre les Russes et les Américains, bien, à ce moment-là, l'énergie d'intelligence va t'amener à reconnaître des aspects de ta vie future, et à ce moment-là, bien, tu rentres dans un autre champ de force, puis automatiquement, bien, tu continues ta vie, la vie, elle continue. Ceux qui se font pogner les culottes à terre, c'est leur problème. Si tu commences à pleurer parce qu'ils se promènent, parce qu'ils sont fait pogner avec des culottes à terre, tu vas en avoir en maudit des culottes à ramasser dans le monde. Mais ça, c'est parce qu'on est sentimental, on est spirituel, puis on est bon, on est des bonbons, on n'est pas bon, on est bonbon. On n'est pas bon, on ne sait pas ce que c'est être bon, on est bonbon. Mais ça, c'est parce qu'on a des émotions, puis ça, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Un jour, on va se raffiner, puis on va se raffiner, puis quand on va être raffiné, on va être raffiné. Puis tant qu'on ne sera pas raffiné, on est comme on est. Puis quand on est comme on est, on a le choix de rester comme on est, ou d'apprendre d'autres choses. Des gaffes, t'en fais tout le temps des gaffes, seulement son film. Des gaffes, t'en fais tout le temps, mais ça fait partie de ton travail, faire des gaffes. C'est pas de ta faute que tu fais des gaffes, c'est pas parce que t'es pas fin. Tu fais des gaffes. Tu fais des gaffes parce que ça fait partie. Tes gaffes, là, si tu faisais pas de gaffes, là, tu seras pas comme t'es. Tu fais des gaffes. Tu fais des gaffes. T'en fais des maudites, des fois. Seulement, c'est des bonnes gaffes, ça fait aller le monde. Éventuellement, les gens te connaissent, les gens te comprennent. Aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que t'es à la job, là. Les gens commencent à te comprendre, puis ils commencent à réaliser que tes gaffes, t'en fais des gaffes. Comment ça s'appelle ça, Nazareth, la NASA? Ça, c'est des gaffes monumentales. Si t'étais dans l'intelligence, tu pourrais pas parler de même. Mais c'est des gaffes qui font rire le monde, c'est le fun. Ben, si les gens se prennent au sérieux, puis ils pensent que le Nazarien, il travaille pour la NASA, ben là, eux autres sont en gaffe. Mais il faut que tu fasses attention quand tu fais des gaffes de même. Mais ça vient avec le temps, tu peux pas être plus réceptif à ton intelligence que dans le temps. Ça vient graduellement, ça. Tu as changé depuis 3-4 ans. T'es pas comme t'étais avant. Tu changes, on change. Moi, je change. Tout le monde change. Dans 2 ans, tu vas être différent. La gaffe que tu fais aujourd'hui, dans 2 ans, tu pourras pas faire. Parce que la vibration va être ajustée. Ça va s'ajuster, ça va s'ajuster. C'est comme ça. En attendant, la gaffe que tu fais est importante. Alors, tu veux que je te dise?
Je la répète. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et on doit leur pardonner parce que c'est ça
le Christ, quand il est mort, il a dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était des paroles qui devaient continuer leur écho dans le temps. Ça servait pour l'homme. Mais si un jour la Russie et les États-Unis se lancent une balle, laisse-moi te dire que même pas moi, je vais même pas leur dire pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais dire qui mange la merde. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Les paroles du Christ, ça servait dans... On comprend pas que l'histoire... Je m'en vais. Comprends-tu ce que je veux dire? Ce qui a été dit dans le passé servait dans le présent. Ce qui a été dit dans le passé servait dans le présent. Mais nous autres, on est dans un autre temps. Tu peux pas faire face à une situation politique mondiale aujourd'hui et dire pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand tu es dans l'intelligence, tu ne peux pas fonctionner de même. Ce que le Christ a dit, ça faisait partie de l'énergie d'intelligence canalisée à travers sa personne pour le temps qui vient pour les hommes. Mais nous autres, notre job, c'est pas ça. On a un autre job. Les hommes ont d'autres jobs. Alors, nos réactions, je sais bien que la mienne, moi, quand ça se passera, ça sera pas ça. Ça va être d'autres choses. Il faut qu'on déspiritualise notre intelligence. Moi, j'ai rien contre la spiritualité. Il y a des gens qui pensent des fois que je suis contre la spiritualité. Ma belle-mère, elle pense que je suis un athée. Si elle savait que je ne suis pas un athée. Pas que je ne suis pas un athée. C'est que Je ne veux pas les choses comme avouer. Fait qu'automatiquement, pense que je suis un athée. Je ne suis pas un athée. S'il y en a qui n'est pas un athée, c'est bien moi. Mais, quand tu déspiritualises ton intelligence, tu enlèves l'émotivité dans ton intelligence, automatiquement, tu rentres dans une autre intelligence. Mais à ce moment-là, il faut peut-être les reins forts parce que tu n'as plus de support psychologique de ton ancienne intelligence. Tu n'as plus de support psychologique de tes anciennes émotions. Tu es obligé de faire face à la musique. Puis cette musique-là, ben, elle est froide, elle est de l'intelligence. Puis quand tu, soit que tu le parles par télépathie ou que tu parles, ce que tu dis, moi quand je parle des fois, je suis obligé de subir le poids de mes paroles. Moi, j'ai parlé, d'accord, je les écoute, j'entends ça, puis des fois, je dis, ouais, c'est intéressant ça. Puis il me parle en haut, puis il dit, ouais, ouais, c'est bien intéressant. Mais c'est moi qui ai le poids de ça. Quand tu ouvres ta gueule en public, tu as le poids de ce que tu dis. Aujourd'hui, je suis habitué, ça ne me dérange pas trop. Mais au début, c'était pas facile. Parce que quand tu détruis des femmes, tu es obligé de dire à l'homme, mais il est temps, là, les gars, là, que vous arrêtez de spiritualiser votre intelligence pour rentrer dans l'intelligence pure. Au début, c'était pas facile. Parce qu'on est lié à un passé, on a une mémoire. Puis c'est ça que l'on doit petit à petit apprendre à faire. Puis plus on va apprendre ça à faire, bien plus on va rentrer en intelligence.
Il y avait une face dans tout ça, parce que même avec le pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, effectivement, les êtres humains sont le jeu des forces du dessus. Et même si, avec toute la bonne volonté du monde, les êtres humains voulaient tout faire pour faire la paix, même si avec l'organisme, comme vous nous avez mentionné, de scientifiques qui font le tour de la Terre et qui essaient de conscientiser la science, tout ça, c'est détruit à la base par des êtres extérieurs, pour ne pas dire extraterrestres, qui viennent faire sauter Sodome et Gomorre, qui viennent faire le déluge, qui viennent faire ce qu'ils veulent avec les êtres humains. Puis c'est ce que les scientifiques, au début du mois d'avril 1982, ont découvert au Nevada, aux États-Unis. C'est qu'il y a un jeu de théâtre qui est joué. Tu me dises, Bernard de Montréal, on ne se rend pas compte qu'on est des marionnettes et qu'on fait le plaisir de ce que d'autres appelaient autrefois les dieux.
Eh oui, c'est ça que je chante depuis des années de temps. On est des yo-yos, puis eux autres ils tiennent la corde. Puis nous autres, on monte, puis on descend, puis on monte, puis on descend. Quand tu montes, tu t'en vas, quand tu meurs, puis quand tu descends, tu viens sans terre, puis tu meurs, puis tu viens sans terre, puis tu meurs, puis tu viens sans terre. Moi, j'essaie de te faire comprendre comment couper la corde. Puis personne ne veut servir des ciseaux. On est des yo-yos, mais c'est nécessaire qu'on devienne des yo-yos. Mais là, il y a yo-yo, puis yo-yo. Là, on est rendu tellement yo-yo qu'on n'est plus capable de le voir qu'on est yo-yo. Il est temps qu'on commence à... Tu sais, c'est correct un yo-yo. Mais quand un yo-yo devient intelligent, mais là, il change de phase. Il faut que les hommes commencent à réaliser qu'ils ont été des yo-yo, puis que c'était des bons yo-yo, puis c'était des beaux yo-yo, puis c'était nécessaire qu'ils montent puis qu'ils descendent. Mais là, c'est temps que l'homme commence à comprendre qu'il doit changer de peau. Il doit cesser d'être un yo-yo. Puis c'est ça, la nouvelle évolution. C'est ça que j'essaie d'expliquer de toutes sortes de façons.
Oh, mais qu'est-ce qui nous dit pas qu'on n'est pas le produit tout simplement d'une science avancée extraterrestre?
Oh, ben, quand je t'ai expliqué qu'est-ce que c'est l'origine de l'homme, pourquoi est-ce que l'homme est sur la Terre, là, c'est un autre élément, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que si je commence à expliquer l'origine de l'homme et la raison cosmique de l'évolution de l'homme et la descente de l'homme dans la matière, à ce moment-là, ça crée trop de matériel. Ça crée trop de formes pour rien. Les gens sont pognés d'informes. C'est pas les extraterrestres. Lance-moi donc des extraterrestres. Des extraterrestres, pensez que les extraterrestres peuvent faire ce qu'ils veulent sur la planète Terre. Les extraterrestres sont régis par l'intelligence. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ce sont les forces astrales qui dominent l'homme. Ce sont pas les extraterrestres. Moi, j'ai rien contre les extraterrestres. Ce sont les forces astrales qui sont dangereuses pour l'homme, pas les extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui sont dangereux pour l'évolution future de l'humanité. Mais c'est pas le même danger que les... Le plus grand danger de l'homme, il est dans l'homme, il n'est pas à l'extérieur de l'homme. Le plus grand danger de l'homme, il est dans sa conscience astrale. Il est là le danger de l'homme. Il est dans ses pensées, il est dans ses émotions. Il est là le danger de l'homme. Et les intelligences qui manipulent ça, ce sont ces intelligences-là que l'homme éventuellement doit neutraliser. Quand il aura neutralisé ça, l'homme sera dans la conscience supramentale. Quand l'homme sera dans la conscience supramentale, il est automatiquement en relation vibratoire avec les êtres qui viennent d'autres planètes. Parce qu'il sera dans l'intelligence comme eux autres le sont. Il n'y a plus de problème à ce moment-là. Le danger est dans l'homme, nos pensées et nos émotions.
Parce que dans la science-fiction, on parle aussi de la téléportation. qui est une manifestation d'une vie à un endroit et la même vie à un autre endroit presque simultanément.
Oui, puis.
Puis dans les clés.
La téléportation, là, mais pas prêt. La téléportation, ça va venir sur la Terre quand la science universelle va être implantée sur la Terre. La téléportation, le système, les moyens de téléportation, ça va être un des premiers systèmes qui vont être créés pour l'homme, par l'homme, en relation avec l'aide extraterrestre, et que ça va être donné à toutes les nations du globe. Il n'y aura pas de conflit. Mais l'homme n'est pas prêt à travailler avec la science cosmique parce que l'homme, à cause de son attitude psychologique, à cause du fait qu'il ne voit pas à l'extérieur de lui-même, à cause du fait qu'il n'est pas conscient qu'il y a des mondes invisibles, des mondes parallèles, qu'il y a des gouvernements invisibles, qu'il y a des gouvernements parallèles, l'homme automatiquement se servirait de ces choses-là pour sa puissance nationale. Les Russes en premier, puis les Américains en deuxième, puis les Chinois en troisième, puis les Français, puis les Américains. Ça marche de même. Les hommes sont assoiffés de pouvoir, puis c'est normal, parce qu'ils ne voient pas d'autre chose. Alors, quand la fin du cycle viendra, que l'homme entrera en contact avec des intelligences supérieures, puis quand l'homme sera, je ne peux pas en parler trop, là, mais quand l'homme sera au niveau des gouvernements, en présence permanente avec des hommes planétaires, terrestres, immortalisés, faisant partie du gouvernement invisible, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les gouvernements ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Parce qu'éventuellement, les gouvernements ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Parce qu'éventuellement, les hommes qui font partie du collège, pas du collège invisible, mais qui font partie de l'invisible, qui font partie de cette conscience supramentale, mais qui viennent d'une autre planète et qui ont une régence sur la Terre, ce sont ces gens-là, ces hommes-là, qui sont dans un autre état, qui contrôleront et qui dirigeront l'évolution de la sixième race. Et ces hommes-là seront en contact permanent et à volonté avec les chefs des gouvernements. Alors, les nations ne pourront plus aller en guerre. C'est pas, les nations ne vont pas cesser d'aller en guerre après la fin du cycle parce qu'ils auront eu de la bonne volonté. Ils vont cesser d'aller en guerre après la fin du cycle parce qu'il y aura des êtres qui pourront se matérialiser dans leur bureau et dans les chambres corporatives pour leur dire, écoute, c'est de même que ça marche, puis si ça marche pas de même, on zigouille. C'est de même que ça va marcher. Puis quand je parle de zigouillage, je parle de zigouillage parce que l'homme a le pouvoir sur la matière. Puis quand l'homme a le pouvoir sur la matière, il a le pouvoir de dématérialiser la matière. Et quand l'homme dématérialise un corps matériel, il peut changer la vibration de ce corps-là et envoyer l'homme qui est en esprit là-dedans, l'autre bord, ça veut dire encore dans le plan astral. C'est pour ça que après la fin du cycle, il n'y aura plus de guerre sur la Terre. Pas parce que les hommes auront une bonne volonté, mais parce qu'il y aura sur la Terre la présence de la lumière, la présence de l'intelligence, et pour la première fois depuis le début de l'évolution humaine jusqu'à aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il sera donné à l'homme, à qui veut voir, puis laisse-moi dire qu'il va avoir les yeux grands, à qui veut voir, il sera donné à l'homme la capacité de reconnaître une fois pour toutes, sans faille et sans doute, et sans ambiguïté, qu'il y a effectivement sur la Terre un gouvernement invisible, puis c'est lui grand de chose. Seulement qu'avant, ça n'était pas fait à l'échelle mondiale, c'était fait en retrait, parce que l'homme devait évoluer. Mais maintenant que l'homme doit évoluer, et que le gouvernement invisible et la hiérarchie ne permettent plus que l'évolution de la Terre soit retardée par des conditions planétaires émanant d'une conscience humaine inférieure et totalement égocentrique, à ce moment-là, ça va être final.
Êtes-vous un de leurs porte-parole, Bernard?
Non, mettre toutes tes affaires, puis. Pourquoi tu me demandes des affaires là-même?
Des questions. Pas
d'affaires là-même. Tu sais que je ne me répondrai pas à des questions comme ça. J'essaie de faire comprendre des affaires, mais je ne te répondrai pas à des questions comme ça. Puis à part de ça, c'est pas de tes affaires. Puis à part de ça, c'est pas de tes affaires. Moi, j'ai du fun de vous parler, là. Je vous parle comme un chum, là. Mais. C'est des choses. Ça passe pas, ça. Tu dis pas ce que tu veux, puis tu dis pas ce que tu veux. Tu dis ce que tu dois. Quand tu dis ce que tu veux, ça vient de l'ego. Quand tu dis ce que tu dois, ça veut dire que tu n'as pas de contrôle, ça. C'est ça de l'intelligent. Sans ça, tu fais des erreurs psychologiques, puis tu parles du Nazaréen qui est à NASA.